Dans un instant, notre invité Afrique, Céline Nafo, porte-parole du groupe des négociateurs africains pour la COP29 de Bakou en Azerbaïdjan. Mais d'abord, la presse. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Vous avez parcouru les journaux africains pour nous. À la une, l'Afrique frappée de plein fouet par le changement climatique.
Depuis ces dernières années, le temps change sur le continent. Les sécheresses s'intensifient, suivies de pluies diluviennes qui provoquent inondations et glissements de terrain. Résultat, des récoltes réduites, donc des risques accrus de famine et des habitations et des routes détruites. Le monde Afrique prend l'exemple du Malawi. Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient dans ce pays pauvre et enclavé d'Afrique australe, mettant en péril la sécurité alimentaire de ses habitants, relève le journal. L'envoyé spécial du Monde Afrique constate les dégâts. Une cicatrice indélébile, l'océan de boue et de rochers éventre toujours le village de Ndala, 18 mois après le passage du cyclone Freddy. Cette bourgade du sud du Malawi emporte encore les stigmates. La tempête tropicale d'une violence inouïe, le plus long cyclone observé dans l'hémisphère sud, a fait plus de 1000 victimes ou disparues au Malawi en mars 2023. Ici, un glissement de terrain a dévalé la montagne à la nuit tombée, résultat de l'accumulation de 4 jours de pluie diluvienne. Les flots de la rivière Nanchidwa, chargés de pierres, ont alors balayé des dizaines de maisons, leurs habitants et le bétail. La balafre est encore clairement visible. Une brèche d'une quarantaine de mètres de large fend le village en deux. Autour de cet amas de roches, la vie fait du surplace et pointe encore le monde Afrique et Ndala. L'heure n'est pas encore à la reconstruction. Environ 150 familles restent sans domicile et pour cause. Non seulement les boues ont enseveli les terres arables en contrebas, mais le Malawi subit cette année une sécheresse record causée par le phénomène El Niño.
Face à ces phénomènes climatiques, certains citoyens se mobilisent, mais ils se heurtent parfois à des intérêts économiques et étatiques puissants.
Oui, c'est le cas en Ouganda, relève le Point Afrique. L'Ouganda où le gouvernement n'en finit plus de réprimer les activistes climatiques du pays. Après l'arrestation début août de 47 personnes qui marchaient vers le Parlement pour remettre une pétition contre le très décrié méga projet pétrolier ICOP porté par Total Energy, la police de Kampala a de nouveau arrêté 21 militants à la fin de ce même mois. Ils tentaient de rejoindre le Parlement pour remettre une nouvelle pétition. Interrogé par le Point Afrique, l'activiste climatique Mbabazi Farida dénonce les risques environnementaux de ce projet. L'oléoduc prévu par ICOP doit s'étendre d'Ohima, dans l'ouest de l'Ouganda, à Tanga, en Tanzanie. Il traversera des zones sensibles, affirme-t-elle, des lacs, des rivières et autres sources le long de son tracé, il y a des risques de déversement et de fuite de pétrole qui pourraient entraîner une contamination du sol et des sources d'eau dans ces régions et par conséquent dévaster l'agriculture, nuire à la vie aquatique et affecter l'approvisionnement en eau potable des communautés situées le long du tracé de cet oléoduc.
Alors que faire face à ces phénomènes climatiques et à l'exploitation toujours plus intense des énergies fossiles, parfois au détriment de l'environnement?
Alors la COP29, vous le savez, qui s'ouvre ce matin à Bakou en Azerbaïdjan, va tenter d'apporter des réponses, mais dans les médias du continent, l'heure n'est pas vraiment à l'optimisme. COP29 à Bakou, la grande hypocrisie, s'exclame le pays au Burkina Faso. Ce sommet intervient dans un contexte géopolitique et économique marqué par une baisse tendancielle de la croissance mondiale et par des contraintes et coupes budgétaires drastiques dans quasiment tous les pays. On comprend donc pourquoi, à l'échelle nationale, les gouvernements aient relégué pour la plupart le sujet de la crise climatique au second plan dans l'ordre des priorités.
Les présidents des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de la Russie aux abonnés absents déplorent le quotidien burkinabé.
Oui, le pays qui dénonce donc l'hypocrisie de tous ces absents qui sont pourtant censés être les principaux acteurs dans la lutte contre la dégradation continue de l'environnement. Les Africains, qui sont les victimes collatérales, pour ne pas dire innocentes, du réchauffement climatique, du fait de l'utilisation abusive des combustibles fossiles par les grandes puissances, les Africains ont donc raison d'en avoir ras-le-bol. Résultat, tempête pour sa part le Djeli en Guinée. L'Afrique devrait boycotter cette grande farce. Les financements promis n'arrivent pas, en dépit des professions de foi sans cesse renouvelées. L'Afrique devrait donc se détourner de ces rencontres où tout se limite aux grandes annonces.
Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et on en parlait, c'est le début aujourd'hui de deux semaines d'intenses négociations. La COP29, ça se passe à Bakou en Azerbaïdjan. Une centaine de chefs d'État et de dirigeants sont attendus. Et une fois encore cette année, l'un des sujets brûlants va être l'aide apportée par les pays riches, pollueurs aux pays les plus pauvres qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Et tout cela dans le contexte d'un retour prochain au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, lui qui est un climato-sceptique convaincu. Donald Trump qui a nommé, on l'a appris hier soir, Thomas Oman à la tête de l'agence responsable du contrôle des frontières et de l'immigration. Donald Trump qui avait promis lors de sa campagne la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis. Et puis on l'apprend aussi ce matin, il aurait proposé à la députée républicaine Elise Stefanik le poste d'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. En Ukraine, une alerte aérienne en vigueur ce matin sur une grande partie du territoire, annonce de l'armée de l'air du pays après le décollage de plusieurs bombardiers russes. Un mot aussi de ces nouvelles frappes israéliennes qui ont visé le Liban hier, la région de Baalbek, mais aussi le nord de Beyrouth, la capitale. Dans la bande de Gaza, la défense civile palestinienne a fait état hier d'au moins 25 morts, dont 13 enfants, dans une frappe israélienne qui a visé une maison à Jabalia, dans le nord du territoire palestinien. Une fois encore, c'est l'un des grands enjeux de la conférence de l'ONU sur le climat. Les pays membres vont-ils pouvoir se mettre d'accord sur un nouveau montant d'aide apporté par les pays riches aux pays en développement pour financer leur transition énergétique? En tout cas, les pays du continent africain veulent se montrer ambitieux. C'est ce que nous dit Seni Nafo, porte-parole du groupe des négociateurs africains. Il préside aussi le Fonds vert pour le climat et coordonne l'initiative d'adaptation de l'Union africaine. En ligne de Bakou, il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Seni Nafo, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous attendez de cette COP29?
On attend un résultat ambitieux sur la nouvelle cible de financement qui doit remplacer la cible des 100 milliards. Pour les ministres et chefs d'État africains, les instructions qui nous ont été données, c'est d'avoir une cible qui est à peu près à 1300 milliards de dollars, qui serait en adéquation avec les besoins des pays en développement.
Alors, ces dernières années, l'aide des pays riches en faveur des pays en développement pour leur adaptation climatique, elle s'élevait à 100 milliards de dollars par an. Si vous visez 1300 milliards à partir de 2025, ça veut dire 13 fois plus d'argent, c'est ça?
En fait, nous sommes déjà entre 105 et 115 milliards pour 2025. Donc, nous partirons en fait d'un plancher de 110 pour aller vers un plafond à 1300 à l'horizon 2035.
Avec une augmentation progressive tous les ans.
Exactement, tous les ans.
Alors il y a un problème tout de même, Seni Nafo, c'est que Donald Trump va revenir au pouvoir. En 2017, il avait annoncé le retrait de son pays, de l'accord de Paris de 2015 sur le climat. Et maintenant qu'il est réélu, est-ce que vous ne craignez pas qu'il recommence et qu'il retire son pays de tous ces accords?
Alors oui, il est très probable que les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, et peut-être même pire, qu'ils se retirent de la Convention même des Nations Unies sur le climat. Mais également, on se rappelle qu'en 2016, l'administration Trump avait également créé une grande agence bilatérale de développement, notamment DFC, Development Finance Corporation, qui avait eu à l'époque une augmentation de capital jusqu'à 60 milliards de dollars dans les pays en développement, notamment pour soutenir le secteur privé américain, mais pas que. Et donc, ce qu'il va falloir faire, nous en discutons beaucoup au niveau du groupe, c'est de regarder également le côté bilatéral. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités en bilatéral. L'Afrique, aujourd'hui, a un siège au G20, ce qui n'était pas le cas en 2016. Les chefs d'État africains sont beaucoup plus présents sur cette question climatique. Notamment, l'année dernière, nous avons eu le premier sommet des chefs d'État africains sur le climat. Donc, notre stratégie à nous est de travailler également sur un agenda bilatéral États-Unis-Afrique. Et nous pensons que l'Afrique a des cartes à jouer au-delà de la Convention climat.
Mais franchement, Seni Nafo, avec un climato-sceptique à la Maison-Blanche, est-ce que vous pensez vraiment que l'enveloppe des pays riches va augmenter jusqu'à 10 à 12 fois la somme actuelle d'ici 2035?
Vous savez, nous sommes dans une négociation. 1300 milliards est l'objectif final. C'est-à-dire que pour nous, beaucoup plus que le chiffre lui-même, sans fétichisme, le plus important serait d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Par exemple, l'accès universel aux énergies modernes.
Alors, les pays riches qui financent cette enveloppe affirment qu'ils ne représentent que 30% des émissions de gaz à effet de serre et ils demandent à présent que la Chine et les pays du Golfe soient mis eux aussi à contribution. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, c'est une stratégie de négociation des pays développés. La réalité, et que la Chine, tout comme les pays du Golfe, contribuent à l'effort climatique. Vous pouvez regarder les financements octroyés par la Banque de développement de Chine, par la Banque export de Chine, par les fonds saoudiens pour le développement, par la Banque islamique pour le développement. La réalité est que les pays du Sud contribuent et contribuent autant, sinon plus, que les pays développés.
Oui, mais si vous demandez 1 300 milliards de dollars d'aide par an d'ici 2035, ça représente un gros effort pour tous les pays à qui vous vous adressez. Alors du coup, pourquoi la Chine serait-elle exemptée de faire cet effort ?
Nous sommes dans un système monétaire international, c'est-à-dire qu'on crée littéralement de la monnaie. La Réserve fédérale des États-Unis, la BCE, la Banque du Japon créent de la monnaie. On a injecté des sommes colossales qui se situent en dizaines de milliards de dollars sous la Covid sans que ça pose aucun problème. Donc pour nous, le problème n'est pas que la Chine contribue ou pas. Les pays développés ont les moyens de contribuer.
Même si aujourd'hui, les pays développés ont de gros problèmes budgétaires devant eux ?
Nous pensons qu'il y a des instruments financiers qu'on peut mobiliser qui auraient un impact nul sur les budgets, notamment les DTS, les droits de tirage spéciaux du FMI, qui est la monnaie du FMI. Cela a été fait pour le Covid. Nous pouvons mobiliser ce type de monnaie. Les banques centrales peuvent être mises à contribution en injectant des liquidités. Donc, il existe des instruments financiers. La question est une question de volonté politique.
C'est Nina Fo, merci.
C'est Nina Fo, porte-parole du groupe des négociateurs africains pour cette COP29, également président du Fonds vert pour le climat et coordonnateur de l'initiative d'adaptation de l'Union africaine. Il répondait à Christophe Boisbouvier. Entretien à retrouver sur notre site RFI.fr. Maman, vous aussi, vous nous parlez de la COP29 ce matin. Vous dites qu'au Gondwana, dans la cour de récré, il y a les carnivores et les herbivores.
Oui, notre chair étant en cour de récré avec ses carnivores et ses herbivores, ses obèses et ses sous-alimentés, notre cour de récré a encore la gueule de bois suite au comeback surprise de l'homme à la peau et aux cheveux orange, le retour de la revanche de Donald, Make America Greater Again, qui revient très énervé et décidé à relever les compteurs de tous ceux qu'il avait multipliés par log de 1, c'est-à-dire par zéro. Eh oui, le carré VIP va changer de boss. Le carré VIP va retrouver son boss d'il y a 4 ans, Donald, un boss qui s'était contenté de faire du télétravail, tant le job de boss du carré VIP ne l'intéressait pas. Pour ceux qui viennent de débarquer ici, sans visa, sans green card, sachez que la cour de récré est divisée en 3 parties. Il y a le carré VIP de son nom d'artiste, le monde libre, la fameuse communauté internationale, avec pêle-mêle Manu, le jeune homme de 46 ans, Olaf, le ropero d'Angela, Kerr de Londres, qui a succédé à Richie, qui lui-même avait succédé à Liz, l'intérimaire Flash, venu après Bojo the Brexit Man, sans oublier Georgia, la dextrogire de Rome, Pedro de Madrid, Sanchez, le seul à ne pas se coucher, debout, Kembe, Red Pamouli. Et en face, il y a le préau, fief de Vlad le Costaud, et Xi Jin, maître Shaolin, le vrai boss du préau, car c'est lui qui tient la caisse. Et enfin, le sud global, nouvel arrivant à la table des grands, même s'il a toujours été là, relégué à la porte du restaurant de l'autre côté de la rue. Quand on s'assoit sur le bas-côté et qu'on observe la vie dans notre cher étang de cour de récré, on se rend compte que sous ces airs de gentil cours de récréation, avec des enfants qui jouent, courent en criant, riant, eh ben, notre cher cour de récré se transforme vite en plaine du Serengeti avec sa faune et sa flore, les carnivores guettant les herbivores pour en faire leur repas du jour. Et on se rend compte que si le sud global a tout le temps été l'herbivore en puissance, le troupeau de gnous, éternel des dévoré, beefsteak ambulant, on s'empondre du côté du carré VIP la peur de basculer dans le camp des herbivores après la victoire de Donald, Make America Greater Again. Les Manu, Olaf, Kerr, Pedro, Georgia, après avoir pendant des siècles fait partie des fauves de la cour de récré, transformant ce qui n'était pas encore le sud global en terrain de chasse préférentiel, leur précaré éternel, on dirait qu'aujourd'hui, ils anticipent avec frayeur les manœuvres de leur nouveau boss qui va encore une fois de plus partir à la chasse en solo, les laissant tout seul face aux prédateurs du préau, Vlad et Xi Jin, et n'écartant pas la solide hypothèse que Donald se retournera contre eux, ses propres alliés, pour les dévorer tout cru comme les simples herbivores qu'ils sont redevenus sans sa protection, oui, lui leur boss. Bref, dans la cour de récré, ça va vite être chacun pour soi quand les fauves débouleront aux marigots où se désaltèrent les pauvres herbivores. À demain.
demain, Maman. RFI, vous restez avec nous dans une minute. Le journal international, la COP à la une. Et Jeanne Richard du service environnement sera avec nous. Restez à l'écoute de RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Le dictionnaire, ça n'existe pas, car dans les mots, il y a une part de subjectivité. Chaque définition est un reflet de son époque. Deux linguistes, Médéric Gasquet-Cyrus et Christophe Rey, se sont prêtés au jeu des comparaisons à travers le temps, et cela donne « Va voir dans le dico si j'y suis ».
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU, sur RFI.
Ce lundi, sur RFI.
Qu'est-ce que Néandertal révèle sur Sapiens ?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Rencontre avec l'un des meilleurs spécialistes des sociétés néandertaliennes, l'archéologue Ludovic Slimak, qui interroge la nature même de notre humanité. Le succès de Sapiens en miroir avec le déclin de Néandertal. Pourquoi nous et pas eux ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI.
À l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Deuxième émission à la Biennale de Dakar et on parle d'art, de vie quotidienne mais aussi du futur avec deux jeunes artistes sénégalais, Badit Pixel et Mohamed Diop, la peintre camerounaise Wilfried Bimda et son galeriste, le parisien et passionné d'Afrique Christophe Persson, dont les artistes sont présents et dans le in et dans le off.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.